La revue de presse internationale, Éric Biégala avec tout d'abord, Éric, bonjour. Cette plongée des indices boursiers qui affole nombre d'éditorialistes, notamment aux États-Unis.
Oui, comme d'autres, le New York Times tente ce matin de comprendre ce qui a vraiment déclenché cette mini-crise, le Dow Jones qui chute de 4,6% dans la journée d'hier, et prévient d'ailleurs que la dégringolade n'est peut-être pas finie. À leur ouverture ce mardi matin, les bourses asiatiques suivaient le mouvement à la baisse. Les cotations des valeurs japonaises étaient en baisse de 5% et celles cotées à Hong Kong perdaient 3% en moyenne. En fait, souligne le quotidien new-yorkais, c'est paradoxalement la bonne marge de l'économie qui a probablement déclenché cette crise. En clair, ce qui est bon pour l'économie ne l'est pas forcément pour les marchés. Et en l'occurrence, les bons chiffres de l'emploi publiés vendredi dernier aux États-Unis semblent indiquer que les salaires américains devraient suivre. Mais qui dit hausse des salaires, et donc du pouvoir d'achat, dit aussi risque d'entraîner une certaine inflation, ce qui affole les investisseurs et constitue un nouveau défi à relever pour la Banque centrale américaine, la Fed, au moment où celle-ci change de tête, souligne le quotidien. Pourtant, il n'y a pas de quoi s'affoler, relativise Daniel Wiener, le patron d'Advisor Investment dans le Washington Post. Ce qu'on voit là, c'est de la pure psychologie de foule, explique-t-il. Les investisseurs ont eu tout le week-end pour se soucier de ce que pouvaient bien signifier les bons chiffres de vendredi. Et le lundi, ils ont vendu. Il n'y a là rien de plus que la volatilité normalement observable sur les marchés boursiers. Une volatilité en fait très saine, conclut l'analyste. Une simple correction en fait des marchés qui au passage égratignent franchement Donald Trump. Le président s'est piégé lui-même dans cette affaire, souligne pour sa part le site Politico. C'est lui qui, dans son discours sur l'état de l'Union la semaine dernière, a revendiqué la paternité ou la responsabilité de la hausse continue des indices boursiers américains, alors que celle-ci était largement due aux politiques monétaires de la Fed et de sa patronne Janet Yellen. Aujourd'hui qu'elle quitte son poste, la volatilité des marchés reprend ses droits et Donald Trump n'a plus qu'à assumer une certaine responsabilité dans la correction d'hier.
Et puis alors Eric, en Europe, c'est le torchon qui brûle entre les Pays-Bas et la Turquie, et ce torchon qui brûle agite les éditorialistes.
Oui, les Pays-Bas ont annoncé hier qu'ils ne renverraient pas leur ambassadeur à Ankara et qu'ils n'accepteraient plus d'ambassadeur turc à La Haye. Ce matin, le porte-parole du gouvernement turc dans les colonnes du quotidien Sabah se veut rassurant. Les deux pays n'ont pas rompu leurs relations diplomatiques, explique-t-il. Celles-ci demeurent intactes, mais au niveau des chargés d'affaires. La crise entre La Haye et Ankara remonte à mars dernier. Alors, en pleine campagne pour les législatives, le gouvernement hollandais avait refusé que certains ministres turcs viennent eux-mêmes faire campagne auprès de la forte minorité turque ou binationale résidant en Hollande. La Turquie, en effet, était au même moment, elle aussi en campagne, pour décider par référendum de présidentialiser le régime. Ankara attendait depuis des excuses formelles de La Haye, explique encore Sabah, et le nouveau gouvernement hollandais, formé en octobre dernier sans l'ancien ministre des Affaires étrangères Bert Koenders, considéré comme responsable de la crise, laissait espérer une normalisation des relations entre les deux pays qui aurait dû débuter par un échange d'ambassadeurs durant les premières semaines de 2018. Manifestement, il n'en sera rien. Et c'est peut-être à nouveau la situation politique néerlandaise qui en est la cause. Il y a des élections municipales le mois prochain, explique Amberin Zaman dans les colonnes d'Almonitor, et la ville de Rotterdam, avec sa large communauté d'origine turque, près de 8% de la population, sera parmi les plus disputées. Or, parmi les partis en lice à Rotterdam, on trouve Denk, un parti turc, soutien indéfectible du président turc, Erdogan, signe supplémentaire de l'entremêlement de la politique intérieure des deux pays.
Enfin, en Asie, Eric, ce sont les Maldives et le quasi-coup d'État de son président qui inquiète.
Oui, coup d'État, ce sont en effet les termes utilisés par l'ancien président des Maldives, aujourd'hui en exil, interrogé par le site web de la BBC. L'actuel président, en effet, vient de décréter l'état d'urgence dans les quelques 1200 îlots et atolls de l'archipel au sud de l'océan Indien. Dans la foulée, le chef de la police vient d'être renvoyé et deux juges de la Cour suprême du pays ont été arrêtés. La semaine dernière, cette même Cour suprême avait ordonné la relaxe d'une dizaine de parlementaires de l'opposition au président Abdullah Yamin, incarcéré. Une décision que le président, par ailleurs accusé de dérive autoritaire, a manifestement considérée comme une attaque contre lui. Boris Johnson, le chef de la diplomatie britannique, l'ancien pouvoir colonial dans l'archipel, a appelé ce matin le président Yamin a levé l'état d'urgence, rapporte encore la BBC, tandis que l'Inde, la puissance la plus proche, géographiquement parlant, se demande s'il ne serait pas temps pour elle d'intervenir aux Maldives pour y restaurer l'ordre et la démocratie. Dans sa tribune de l'Indian Express, Raja Mohan fait par exemple valoir que pour Delhi, ne rien faire aux Maldives reviendrait à prendre le parti du président Yamin, mais faire quelque chose impliquerait une médiation politique entre l'exécutif et l'opposition, la mise en œuvre d'une diplomatie coercitive et en fin de compte le possible usage de la force pour restaurer l'ordre dans l'archipel. Une telle intervention bénéficierait probablement d'un soutien international considérable, assure encore l'éditorialiste, et partant, conclut-il, il semble bien que le moment soit mûr pour une intervention indienne aux Maldives.
Merci beaucoup, Éric Biégala.